Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
On les appelle les PADU et c'est l'acronyme de praticiens à diplôme hors Union européenne. Ces praticiens sont donc des médecins qui exercent chez nous, dans nos hôpitaux ou centres de soins, mais ont obtenu leur diplôme dans d'autres pays hors de l'Union européenne. Ils dirigent des services, ils opèrent, ils anesthésient, ils soignent et parfois même, ils forment d'autres médecins. Il y en a 5000 en France et ils sont indispensables au bon fonctionnement des hôpitaux. Sans eux, pas d'urgence ou de garde de nuit, moins de personnel, moins de santé. Sauf que voilà, s'ils font exactement le même travail que les diplômés de l'Union européenne, si leurs compétences sont de facto reconnues au même niveau, ils ne sont pas du tout payés pareil, ni administrativement considérés de la même façon. Au bloc, ils sont tous égaux, mais sur la fiche de paye, ça n'a rien à voir, du double au simple, la plupart du temps. En préparant cette enquête, on a même su que certains se nourrissaient parfois au resto du cœur. Alors ils travaillent encore plus, s'épuisent, se tuent à la tâche pour joindre les deux bouts et continuer à soigner du mieux qu'ils peuvent. À Gonesse dans le Val d'Oise, personne n'en disconvient. L'hôpital tient en grande partie grâce à ses PADU. Il y en a entre 120 et 150. Retenez donc bien ce nom quand vous serez hospitalisé par exemple la prochaine fois et écoutez à quoi ressemble leur quotidien que deux d'entre eux ont accepté de raconter à Rémi Dibowski-Douat.
Je m'appelle Belkacem, je suis médecin praticien en pédopsychiatrie au centre hospitalier de Gonesse en région parisienne. Ça fait 3 ans que je pratique à l'hôpital de Gonesse. Je suis né en Algérie. En 1966, j'ai 58 ans. J'ai eu mon diplôme de médecine générale en 1993 en Algérie, une faculté de médecine de Constantine, vraiment très formatrice, avec une riche expérience de pratique et des connaissances théoriques. C'est des formations qui sont très coûteuses, hein, un petit peu dans les universités à travers tout le monde. Et on a cette quand même reconnaissance de faire un service de minimum 2 ans dans les centres hospitaliers en Algérie. Ensuite, j'ai travaillé un petit peu dans la médecine spécifique des milieux fermés à exposition dangereuse. Et ça m'a nécessité de faire une formation ici en France, un diplôme universitaire de spécialité. Et c'est là où j'ai rencontré ma femme que j'ai épousée ici en France. Et j'ai pris la nationalité française par mariage et je suis resté à pratiquer la médecine en Algérie en faisant des allers-retours. J'avais un travail à mi-temps là-bas et puis je revenais voir mon épouse ici avant d'avoir nos enfants. Ma mère, elle est aide-soignante et elle faisait des injections. Je me rappelle, il n'y avait pas beaucoup de centres médicaux en Algérie et elle recevait beaucoup de gens à la maison pour leur faire les injections chaque jour. C'est imprégné dans ce monde. Mon père, il est directeur des hôpitaux. J'ai un seul oncle qui a 3 enfants, 2 filles et un garçon, un cardiologue. La deuxième fille, elle est réanimatrice. Elle est partie de l'Algérie, elle est partie au Qatar. Et sa petite sœur, elle est aussi psychiatre et qui cherche aussi à partir parce qu'il y a un manque quand même de moyens. Pour nous, les médecins en Algérie, ça veut dire qu'il y a une très très bonne formation. On ne reproche à rien à la formation, notre compétence, notre dévouement. C'est un travail personnel pour chaque médecin. S'il aime la spécialité, il s'engage. Il y a beaucoup de formations médicales, mais il n'y a pas beaucoup de moyens. Alors, il y a eu beaucoup de départs. À peu près 80% des médecins de ma promotion sont venus ici en France s'installer en 1993. 80%. C'est des chefs de pôle, c'est des chirurgiens, c'est des pédiatres. Mais j'avais été confronté à interagir avec les psychiatres. Et avec tous les acquis que j'ai commencé à avoir, l'expérience en psychiatrie, j'ai rencontré un ami en 2019 qui est chef d'unité en psychiatrie adulte à Aulnay-sous-Bois, à l'hôpital Robert Ballanger, me propose de venir travailler avec eux et me propose un statut de PADU. Un praticien à diplôme hors communauté européenne. Donc, je débarque ici en France pour prendre le poste de travail en tant que PADU avec un statut de PAA, praticien attaché associé, à 1 800 euros par mois. Quand je suis arrivé, ils étaient à K2. Et moi, j'étais le troisième, du coup, je prenais jusqu'à 15 patients à accompagner tous les soins, hein, les soins d'urgence, les soins d'entretien, la stabilité du patient, et après, bien sûr, les entretiens familiaux ou les orientations qu'on fait pour ces patients, s'il est dans un foyer de vie ou bien réintégrer un travail en tant qu'handicapé, avoir ses droits, on fait tout le travail, énorme travail. Par contre, le salaire, là, c'est discutable. Vous commencez par le vraiment très, très bas, et les échelons. Vous commencez par un échelon de 1600 euros. Au moment où on m'a fait le contrat et être payé à 1800 euros par mois, j'avais mes confrères hein, qui sont installés à l'hôpital qui avaient le triple, hein, minimum, le triple de mon salaire en faisant la même chose. On n'avait pas le choix que de prendre des gardes ou bien aller travailler dans d'autres structures en paramédical. Fallait de l'autre côté, je pense, trouver une autre chose où vous faites hein, un travail d'infirmier, même le soir, dans une autre clinique qui vous accepte, hein, parce que j'ai aussi le diplôme d'infirmier. Donc j'ai dû être obligé d'aller faire des gardes pour arrondir le mois, 4 gardes par mois, et que tous les autres médecins n'aiment pas faire. C'était vraiment pénible quoi, de faire des gardes aux urgences, c'est très, très difficile. On est tout seul, on ne peut pas être à deux pour prendre les décisions. L'affluence était très importante, et dès le début du travail, en fin de compte, elle a commencé la pandémie hein, du Covid. Tout le monde craignait d'être en première ligne au niveau des urgences, ça veut dire que tout ce qui vient aux urgences peut être contaminé, hein, que ce soit maladie mentale ou n'importe laquelle qui va arriver, hein, accident de la circulation, cette personne susceptible d'avoir le Covid, qu'on nous voyait comme une mort. Mais nous, on était dans l'obligation de gagner notre vie à faire des gardes, pour sinon on n'arrivera pas à arrondir les mois. Et on était là aux urgences, une journée sur deux, sur trois, on était toujours là, on était toujours présent pendant toute la pandémie. C'était pas facile, mais il faudra faire face et patienter. Parce que les conseils des gens qui nous ont précédés étaient pareils, en fin de compte. Ils sont passés par des statuts très difficiles, à faire beaucoup de travail, à aller faire du travail paramédical, même aide-soignant, infirmier, pour arrondir leur mois et pouvoir continuer leur médecine de l'autre côté. On est un petit peu maltraité, quelque part. Ça veut dire que si vous ne faites pas le travail, vous êtes dans un contrat déterminé de 6 mois, à chaque fois renouvelable, hein, malgré que je suis resté 3 ans, mais c'était que des contrats de 6 mois. Ça veut dire que vous avez toujours la crainte de ne pas être renouvelé. Ça veut dire que si vous avez dépassé une petite limite, ça revient directement au chef de service pour dire « telle personne, j'ai pas envie de le renouveler » et c'est reparti pour que vous galériez pour aller trouver. Alors du coup, vous prenez beaucoup sur vous. Alors que les prises en charge, elles sont très bien, avec des grandes reconnaissances des chefs de service, où les patients, ils sont vraiment très contents avec leur famille de non-prise en charge, mais malheureusement, qui peuvent s'éteindre à n'importe quel moment à la merci des autres, avec un statut qui est toujours précaire, précaire, précarité plus, plus. J'ai décidé de partir faire la pédopsychiatrie, alors je suis parti à l'hôpital de Gonesse. La chef de pôle de pédopsychiatrie, elle a vu un petit peu mon travail, et du coup, elle m'a donné la responsabilité de 2 centres médicaux psychologiques qui tournaient sans médecin, je dirais sans pivot, pour atteindre la somme de 3 200 euros par mois. Mais un seul médecin d'un CMP, comme je suis en train de le gérer de A à Z avec l'équipe pluridisciplinaire, pour un seul CMP, il perçoit plus que le double que je perçois actuellement. Et moi, j'ai 2 CMP. Je vais dire que je n'ai pas de vie, mais ma vie, elle est engagée, en fin de compte, justement, dans la continuité des besoins, la continuité des études de mes enfants, le mien, assumer mes charges, et puis après, c'est un engagement auprès des patients. Quand vous êtes dans la médecine et vous prenez un dossier, je pense que vous allez le prendre à cœur, parce qu'il y a beaucoup d'empathie, et puis on est en face de personnes en souffrance. Alors la souffrance mentale, maintenant, c'est ma spécialité, et on ne peut pas lâcher facilement prise. Quand vous avez, par exemple, plus de 250 patients en suivi, quand je dis patients, c'est patients, famille, école, juge, les autres structures, tout intervenant dans la vie et la prise en charge de cet enfant, c'est énorme. Vous rentrez le soir, il y a des moments, je dis, par exemple, il faut que je me gare un petit peu à l'extérieur avant de rentrer chez moi. Si mes enfants sont là, parce que je suis très fatigué des histoires conflictuelles, des patients, de leur famille, beaucoup de choses. Il y a l'encombrement dans la tête et je vous garantis que vous restez au minimum 15 minutes dans la voiture à mettre une musique, à penser à n'importe quoi, à décharger ses ondes avant de rentrer chez vous, et puis attaquer une autre vie qui est préparée, bien sûr, à manger, faire des choses, s'occuper de ce qui est à la maison, faire de son courrier, faire ses factures, encourager ses enfants. Vous êtes vraiment, vraiment, vraiment fatigué au retour du travail. Moi, ce que je suis en train de voir actuellement, par exemple, hein, pour l'avancée des troubles anxieux qu'ils ont déclenché plus, et quand je dis plus, ça fait 35 à 40% de consultations plus depuis le confinement. Les enfants, ils vont pas bien du tout. Les troubles anxieux, je peux dire que vous pouvez renforcer encore des CMP, les centres médico-psychologiques, encore plus de médecins, plus de soignants pour pouvoir faire face. Le besoin des prises en charge médicales ne fait qu'augmenter et la disponibilité des médecins praticiens ne fait que baisser actuellement. Donc je suis indispensable pour les soins, pour la continuité des soins. Pour sortir de ce stade de pas de vue, qui est dévalorisant pour nous, il y a la possibilité de passer des épreuves de vérification des connaissances, qu'on appelle les EVC, et c'est une épreuve de vérification des connaissances. Ça pourrait paraître simple, mais en réalité, c'est un concours très difficile. Son programme, il est très chargé pour faire tout le programme de la pédopsychiatrie et la psychiatrie générale que j'ai fait en 5 ans à l'université, mais pour les réviser, je pense qu'il faut avoir du temps. Avec l'énorme charge de travail et un moral affaibli par rapport aux rémunérations, par rapport aux contrats précaires et un petit peu de maltraitance, c'est pas évident de pouvoir avoir les capacités de réviser et passer ces EVC-là pour être dans sa place comme tous les médecins et être payé comme tout le monde et continuer la prise en charge et le maintien des soins. C'est pas question de non-formation. On est très très bien formé en Algérie, en Tunisie, au Maroc, au Sénégal, et très très bon niveau médical. On profite de nous dans cette situation justement de précarité, on nous met dans cette précarité pour profiter à payer vraiment moins cher, travailler beaucoup. Moi, ce qui m'attend, si je ne réussis pas à ces EVC, et déjà ça m'a été proposé il y a une semaine, un contrat étudiant, ce qui est dédié aux étudiants français qui font une spécialité. Et c'est ce poste qu'on me propose en maintenant, mais bien sûr, mes fonctions qui sont médecins. Spécialiste qui accueille le patient, qui fait en fin de compte son protocole et un salaire de 1800 euros par mois. Là, actuellement, à mon âge de 58 ans et 31 ans de pratique en médecine et dans la spécialité où je suis maintenant, dans ma sixième année, avec tous les diplômes et les expériences, les attestations, on me propose de revenir dans un statut étudiant qui ne me permettra d'aboutir à rien du tout pour le moment, et je ne comprends pas. J'étais directement dans la négation. J'ai renvoyé un mail que je ne signerai pas un contrat comme ça, qui ne me protège en rien du tout. Il me dévalorise hein, au niveau du salaire, de la protection, sécurité sociale, cotisation retraite. J'ai refusé. Mais après plusieurs protestations, je ne vois rien du tout où je suis à la porte le 31 décembre, si je ne le re-signe pas, si je dépose, voilà, j'abandonne mes patients, ou je l'accepte et voilà, dans le néant de l'avancement de ce statut-là. Et je redeviens étudiant.
France Culture. Les pieds sur terre.
Je m'appelle BM, je suis actuellement médecin à l'hôpital de Gonesse. J'ai fait mes études en Algérie, j'ai effectué un bac scientifique plus 12 ans d'études, à savoir médecin généraliste et les années de spécialité. J'ai eu un cursus sans problème, j'ai été très bien formée par les meilleurs professeurs au niveau des meilleures facultés. Depuis mon jeune âge, mon rêve, c'était de prendre soin de l'autre, ne pas laisser l'autre dans la souffrance, l'aider à surmonter sa douleur. Donc pour moi, c'était le point culminant sur lequel j'ai commencé à dire depuis l'âge de 5 ans que je serais pédiatre. Et suite à ça, je me suis inscrite à la faculté de médecine algérienne. J'ai eu tout mon cursus au niveau de la faculté, sans année perdante. Par la suite, je me suis spécialisée. C'était énormément de sacrifices, c'était pratiquement mettre tout son adolescence, mettre toutes ses envies de côté. C'était vraiment prioriser le côté scientifique, la réussite. C'était vraiment une ambition et fallait arriver jusqu'au bout. Une fois que j'ai eu ma spécialité, j'ai rendu un service, une dette vers mon État, c'est ce qu'on appelle le service civil. Je me suis déplacée dans le grand désert du sud algérien, où j'ai pris en charge les enfants en détresse, les polytraumes, j'ai pris en charge les grandes urgences pédiatriques. C'était une satisfaction personnelle, c'était le fait de se dire qu'on est utile et on peut aider si on a les moyens. Il faut juste nous donner les bons moyens. Parce que ce qui fait mal, c'est qu'on se retrouve dans des zones où il y a des compétences humaines, mais il n'y a pas de matériel. On n'a pas les moyens avec quoi soulager. Et c'était ça le déclic sur lequel j'ai pris la décision d'aller voir des endroits où on nous donnait les bonnes conditions de travail. Je finis mon service civil et je me rends compte qu'il fallait vraiment apporter quelque chose à son pays. Et si on veut apporter quelque chose à son pays, il faut commencer par soi. Il faut apporter la chose à sa personne. Donc il faut se perfectionner, il faut aller voir comment les autres avancent, quels sont les moyens qu'ils mettent dans leur contexte pour évoluer. Qu'est-ce qui cloche chez nous? Pourquoi on a du mal à avancer? Pourquoi on a du mal à avoir les plateaux techniques? Pourquoi on a du mal à avoir une bonne qualité de santé? Sachant qu'on a des médecins très très compétents au niveau de l'Algérie et au niveau du Maghreb. Le problème, ce n'est pas les études, le problème, c'est le terrain. On n'a pas les bons moyens, on n'a pas les hôpitaux les plus propres, on n'a pas tout ça. Parce que moi, j'ai envie d'aider mon pays, mais je ne sais pas de quelle manière. On dit pays développé. Un pays où il y a une bonne qualité de soins. Comment ils offrent la bonne qualité de soins? Ce n'est pas à la télé que je vois ça. Je dois être sur le terrain. Je dois vraiment toucher et palper le terrain pour savoir comment évoluer le niveau de santé dans mon pays. Et du coup, j'ai pris la décision d'aller m'installer dans un hôpital français et de voir comment on fait pour évoluer dans ce domaine. La décision de venir ici était une décision pas facile. Dans mon pays, j'ai tout le confort, j'ai ma famille, j'ai mes habitudes, j'ai tous mes repères. Venir ici, pour moi, c'était me déraciner. Mais c'est pour la bonne cause. La cause, c'est d'améliorer l'image de la médecine. Et il faut savoir qu'en tant que médecin, on n'est pas limité par les frontières. Qu'on traite un Algérien, un Anglais, un Asiatique, pour nous, c'est pareil. Ce qui compte, c'est l'humain, traiter l'humain. Alors je pars. Il y a eu des larmes qui ont coulé. Mais on sentait qu'il y avait de la fierté. Je voyais de la fierté dans les yeux de mes parents parce qu'ils savent que le but, c'est d'améliorer les choses, d'aller vers l'avant. J'arrive à Charles de Gaulle, je me retrouve toute seule. Il n'y a personne à mes côtés. Sachant qu'avant d'arriver, il y avait une panoplie de démarches à faire afin de garantir ce premier pas, il fallait avoir l'accord, il fallait avoir des conventions, il fallait avoir le visa, il fallait avoir tout un long processus afin d'arriver. J'arrive dans mon hôpital à Gonesse, j'ai été accueillie à bras ouverts, sachant qu'il y a un manque d'effectifs au niveau de mon service. Du coup, j'intègre mon travail rapidement, j'ai intégré mon travail le lendemain et je prends ma blouse et je commence à travailler, autant que médecin. Voilà, c'était parfait. Pour moi, ce premier jour, c'était vraiment un bon début. Mais c'est à ce moment-là, au moment où j'ai mis ma blouse, que je comprends que je suis un PADHU, praticien à diplôme hors Union européenne. Ça veut dire qu'on est actif autant que médecin, mais que nos diplômes ne sont pas reconnus. Sachant que je fais le travail d'un médecin normal, mais dans des conditions très, très précaires. Autant que médecin spécialiste, je travaille sous le statut de stagiaire associé. Il faut savoir qu'au niveau des préfectures, on a un titre de séjour stagiaire qui est mentionné non autorisé au travail. Par exemple, ici, je vous montre ma carte de séjour. Donc, observation, remarque, stagiaire, travail non autorisé, voire convention de stage. Et on reste avec ce statut pendant 2 ans, sachant qu'on est obligé de le renouveler chaque 6 mois. Et on a du mal à avoir des rendez-vous au niveau de la préfecture. Et on doit à chaque fois, pendant les 2 ans, justifier notre stage pendant 6 mois. Alors que nous, on travaille et on est imposable. Sachant que je reçois un salaire mensuel de 1 400 euros, salaire net, Un médecin spécialiste qui a le même niveau d'études que moi touche 3 fois voire 4 fois mon salaire. C'est très difficile. S'il n'y avait pas les systèmes d'astreinte et des heures sup, ben, ça ne marchera pas. Ça ne pourra pas boucler le mois. C'est impossible. Je fais des gardes supplémentaires, mais c'est au péril de ma santé. On travaille tous les jours de la semaine. On a un congé de 25 jours sur une année. Tout ça pour un salaire de base qui n'atteint pas le SMIC. On assure des gardes, on assure les heures supplémentaires, on assure les gardes des week-ends et les astreintes. On se sent surexploité, on se sent méprisé et on se dit où est la justice dans tout ça? Parce que là, on touche le burn-out, on touche l'épuisement professionnel. Je me prive d'une vie sociale normale, je me prive des loisirs. On finit la semaine, on est KO, on a juste besoin de tout éteindre et de dormir. Tellement que ça a vidé toute notre énergie. La semaine, elle est très épuisante. Venir le matin, avec un grand sourire, rassurer tous les patients, les prendre en charge, les soutenir dans le parcours de la journée, essayer de les soulager du mieux qu'on peut sur le plan psychologique, sur le plan médicamenteux, et au final, sortir épuisé. Et ça, tout le long de la semaine. Je sacrifie beaucoup de mon temps dans l'hôpital. Je suis dédiée à l'hôpital et à côté de ça, j'ai une qualité de vie très médiocre. Je suis à l'heure actuelle hébergée par l'hôpital et je paye la somme de 450 euros par mois pour un T1 de 20 mètres carrés. Les gens ne comprennent pas comment se fait-il qu'un médecin spécialiste peut accepter de vivre dans ces conditions et avec un statut très précaire. Le fait qu'on se sent dévalorisé, qu'on se sent instable, qu'on se sent dans des statuts illégaux, ça casse le médecin. Ça casse la fonction noble du médecin. On pense à la sécurité du patient, mais il faut penser à la sécurité du soignant. Il faut être dans des conditions optimales afin d'offrir les meilleures qualités de soins aux patients. C'est des postes qui sont dans le besoin, criant. C'est des postes qui sont en tension et c'est des uns qui sont délaissés par les médecins français. Donc là, on se retrouve à jouer un rôle essentiel dans le système de santé. À l'hôpital de Gonesse, on est pratiquement à 120 PADU, voire plus. On s'est permis de faire grève, un sit-in pendant 2 heures, et on a senti vraiment l'impact de notre rôle au niveau de cet hôpital. Et sans nous, il faut dire que l'hôpital n'y tiendra pas debout, ça c'est clair. Le fait d'être dans un flou, c'est déprimant. On a toujours besoin de savoir où est-ce qu'on va, on a toujours besoin de savoir qui on est. Et là, en ayant le statut de PADU, on se sent sans identité, parce que notre diplôme n'est pas reconnu, on se sent méprisé, alors que ce qu'on offre comme qualité de soins et ce qu'on offre dans le système de santé, ça n'a pas de prix, on est indispensable. Il faut savoir qu'on est 7000 à 8000 PADU en France, en exercice. On a fait la crise Covid. On a été là dans les moments les plus difficiles et on maintient le système de santé debout. On a un rôle très important et on veut juste une valorisation et une validation de notre statut. L'utilisation économique des PADU, c'est le point culminant de la situation parce qu'on est une main d'œuvre à bas coût et on n'a pas de droit, donc on ne réclame pas. Et en nous mettant sous tension, sous pression, dans un flou administratif, c'est pour maintenir le contrôle. Parce que si on sait ce qu'on vaut, on va demander plus. On va demander nos droits, on va demander une égalité de considération. À la date du 31 mars 2025, tous les contrats des PADU exerçant au niveau de l'hôpital de Gonesse vont être suspendus. Dans quelle optique, on ne sait pas. Vers quel horizon, on ne sait pas. On n'a aucune information, aucune transparence sur ce qui se passe. Et là, ils sont en train de recruter d'autres PADU, à moindre coût, au lieu de maintenir les anciens. On utilise et on jette. On utilise pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et après, on dit, c'est bon, tu as été remplacé. On n'a plus besoin de toi, tu peux partir. Et là, je me retrouve sans travail, sans argent, sans domicile fixe. Il n'y a personne pour nous aider. On est livré à nous-mêmes. Et je me retrouve à la rue. J'ai pas de famille, j'ai personne. Et je suis arrivée à un point de prendre une décision de quitter ce pays, qui est la France, pour d'autres horizons, à savoir l'Allemagne, où on sera accepté à bras ouverts. En Allemagne, on est sûr d'être intégré. vers un pays qui est plus accueillant et plus juste. Sachant que de base, je suis francophone, je suis arrivée à un point où apprendre la langue allemande serait plus simple et plus judicieux que d'essayer d'intégrer un système de santé français. Dans ma tête, la France est un pays de droit, c'est un pays où si on bosse, on a une reconnaissance. Si on prouve nos capacités face à la situation, on est valorisé par rapport à ça. Et là, on est confronté à un paradoxe. On se retrouve dans des situations où on prouve tous les jours notre capacité, on prouve tous les jours qu'on est efficace, mais en contrepartie, on est toujours écrasé, on est toujours dévalorisé. Et il n'y a pas pire pour l'humain que de se sentir méprisé.
C'était des médecins étrangers indispensables et précaires. Un reportage de Rémi Dibov qui doit être réalisé par Louise André. Merci à BM, à Belkacem et à Eric Tron. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy. Et notre stagiaire, c'est Inès Bouffartigue-Sébastien.
When we chill.